Salut, c'est Dr Schnock. Je vous invite à un petit voyage dans le temps pour découvrir l'histoire d'une musique, d'une chanson, d'un musicien ou d'un passionné de musique. Dr Schnock raconte, c'est aussi disponible en podcast sur le www.radio-mdm.fr. Si je vous dis « Tu cours et tu te caches depuis trop longtemps, comme un imbécile, je suis tombé amoureux de toi, tu as bouleversé tout mon monde, tu m'as mis à genoux, chérie, ne veux-tu pas apaiser mon esprit inquiet ?» Vous admettrez aisément qu'a priori je ne m'adresse pas à Nico, qui assure brillamment la technique de l'émission aujourd'hui comme d'habitude. Non, c'était plutôt une tentative pour traduire approximativement quelques paroles d'une des chansons les plus célèbres de l'histoire du rock. Elle date de 1970, elle est l'une des plus reconnaissables qui soit, avec son riff d'ouverture cinglant. Il ne manque plus que le prénom qui fait son titre, Leila. L'histoire de Leila, c'est l'histoire d'un amour secret et apparemment impossible. Mais la fameuse Leila n'est pas forcément celle qu'on croit. Son vrai nom, c'est Patty. Patty Boyd. Mais commençons par le commencement. Patricia Ann Boyd est née en 1944 près de Bristol, en Angleterre. Très vite surnommée Patty, la jeune Patricia travaille en 1962 comme shampooineuse dans un salon de beauté. Elle a 18 ans. Un jour, un des clients du salon de coiffure, qui travaille dans le milieu de la mode, propose à Patty de devenir mannequin. C'est sûr qu'elle est particulièrement jolie, blonde, mince, avec de grands yeux bleus. Patty Boyd entame alors une carrière de mannequin à succès, à Londres, à Paris ou à New York, et elle fait même plusieurs fois la couverture du magazine Vogue. Et comme souvent pour les mannequins, Patty fait aussi parfois de la figuration au cinéma. C'est ainsi qu'en 1964, elle fait une petite apparition dans un film où elle incarne une jeune femme assise tranquillement dans un train quand celle-ci croise par hasard les Beatles. En effet, on est en plein tournage du film des Beatles qui sera bizarrement intitulé en français « Quatre garçons dans le vent », mais le titre original anglais, c'est « A Hard Day's Night ». Au cours de ce tournage du film A Hard Day's Night, George Harrison, le plus jeune des quatre Beatles, remarque la jeune Patty. Elle a 20 ans et lui 21. Une idylle est née entre les deux jeunes gens, si bien que 2 ans plus tard, en 1966, George Harrison et Patty Boyd se marient. George est fou amoureux de Patty et il composera pour elle de nombreuses chansons au fil des années, notamment le fameux Something. Track. Something, écrit par George Harrison seul, a été le premier morceau à s'offrir la face A d'un 45 tours des Beatles. Something a même réussi à atteindre les sommets du hit parade. Les paroles de la chanson décrivent le trouble que ressent l'auteur devant son amoureuse, sans savoir expliquer ce quelque chose, Something, qui le bouleverse. Something a été repris au cours du temps par Ray Charles, Tina Turner, Joe Cocker, Shirley Bassey, The Shadows et Elvis Presley. Elle a même été reprise par Frank Sinatra, qui la qualifiera de meilleure chanson d'amour de tous les temps. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way that she woos me. Don't wanna leave her now. Better believe and how. You're asking me, will my love grow? Well, I don't know. No, I don't know. You stick around, Jack. It might show. I don't know. No, I don't know. Comme je vous l'ai dit, Something n'a pas été la seule chanson écrite par George Harrison pour ou inspirée par son épouse. Il y en a plusieurs. En 1965, déjà, avant leur mariage, il avait écrit pour Patty Boyd une chanson parue dans l'album Help des Beatles, I Need You, J'ai besoin de toi. You don't realize how much I need you. Love you all the time and never leave you. Please come on back to me. I'm lonely as can be. I need you. But when you told me you don't want my loving anymore, that's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. I need you. I need you. I need you. En 1966, George Harrison écrit aussi pour Patty Boyd « Isn't it a pity ?» qu'on pourrait traduire par « N'est-ce pas dommage ?» Cette chanson d'Harrison évoque toutes les beautés du monde, sa femme Patty en particulier, toutes les beautés donc qui nous entourent et qu'on ne voit pas toujours. « N'est-ce pas dommage ?» « Isn't it a pity ?» Cette chanson sera cependant refusée par les Beatles et George Harrison ne la sortira que 4 ans plus tard, en 1970, dans son album solo. En 1972, Isn't It a Pity sera notamment reprise par Nina Simone. Isn't it a pity? Isn't it a shame? Yes, how we break each other's hearts. And cause each other pain. How we take each other's love without thinking anymore. Forgetting to give back, forgetting to remember. Just forgetting a note of thank you, isn't it a pity? Some things take so long. Isn't it a pity est l'un des nombreux exemples de morceaux écrits par George Harrison pour sa compagne Patty Boyd, source d'inspiration inépuisable pour son mari. Sur l'enregistrement originel de Isn't It a Pity, la seule guitare électrique du morceau, est joué par un tout jeune prodige de l'instrument, âgé de 21 ans, Eric Clapton. En effet, George Harrison et Eric Clapton, qui se sont rencontrés récemment, sont alors les meilleurs amis du monde. Clapton a 2 ans de moins qu'Harrison, et depuis son adolescence, il joue de la guitare. Mais il n'est pas encore satisfait de ses productions. En effet, il a appris à jouer en reprenant surtout du blues américain ou du Chuck Berry, et en se produisant dans divers clubs au sein de divers petits groupes d'ados comme lui. Mais il sent bien qu'il pourrait sortir beaucoup plus de sa guitare. En 1963, le jeune Eric Clapton a 18 ans. Il intègre son premier vrai groupe un peu sérieux, les Yardbirds. Le groupe se borne le plus souvent à reprendre brillamment des standards du blues, pendant lesquels Clapton peaufine son style à la guitare. Une virtuosité de plus en plus originale. 2 ans plus tard, en 1965, les Yardbirds, qui s'étaient fait jusque-là une spécialité de ne jouer que des reprises blues-rock, osent enfin quelques compositions. Celles-ci sont un peu plus pop, et l'une d'entre elles va les hisser au sommet du hit-parade, « For Your Love ». For your love.
Days that will excite and make you dream of me at night.
À travers For Your Love, ce virage un peu plus commercial des Yardbirds déplaît à leur guitariste Eric Clapton. En effet, celui-ci demeure définitivement très attaché à un blues plus authentique. Clapton quitte alors les Yardbirds. Au cours des années suivantes, il y sera remplacé par Jeff Beck d'abord, puis plus tard par Jimmy Page, excusez du peu. Mais revenons en 1965. Clapton vient donc de quitter les Yardbirds et il rejoint pendant quelques mois un groupe davantage dans l'esprit de ce qu'il recherche, John Mayall and the Bluesbreakers. La réputation de guitariste virtuose de Clapton se répand au point que certains le surnomment déjà God, le dieu de la guitare. Tell your mama, tell your pa, gonna move you by the Arkansas.
Après moins d'un an avec les Bluesbreakers, Eric Clapton s'associe début 1966 avec 2 grands musiciens croisés dans sa jeunesse, Jack Bruce et Ginger Baker. Il fonde avec eux le groupe Cream. Cream se veut à la fois blues, pop et psychédélique. C'est l'époque qui veut ça. Au sein de Cream, Clapton développe à la guitare un style expérimental d'un niveau de plus en plus élevé. It's getting near dawn. When nights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. Been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love. Malheureusement, après 3 albums, la guerre des égos fait rage dans le groupe Cream et l'ambiance se délite. Dans le 4e et dernier album de Cream, qui sort en 1969, on trouve la chanson Badge, dans laquelle Clapton a demandé à son ami George Harrison de venir jouer incognito de la guitare. Thinking about the time you drove in my car. Thinking that I might have drove you too far. And I'm thinking about the love that you laid on my table. Dr Schnock raconte sur Radio MDM l'histoire de Leïla, deuxième partie. Durant cette deuxième moitié des années 60, Eric Clapton et George Harrison sont donc devenus de très grands amis. On l'a vu, Clapton a joué dans Isn't It a Pity d'Harrison en 66 et Harrison a fait de même avec Badge pour le Cream de Clapton fin 68. Tous les deux partagent le même univers musical et se font une joie de faire des apparitions sur les morceaux de l'autre et vice-versa. D'ailleurs, dans l'album blanc des Beatles paru en 1968, c'est Eric Clapton qui joue le solo du morceau écrit par George Harrison, While My Guitar Gently Weeps. Clapton est ainsi le premier et à ma connaissance le seul guitariste extérieur au groupe qui aura joué sur un disque des Beatles. Guitar gently weeps. Look at the floor, and I see it needs sweeping. Still, my guitar gently weeps. En cette année 1969, lorsque l'album blanc paraît, les Beatles glissent peu à peu vers la fin de leur histoire. De son côté, Clapton, après Cream, a fondé brièvement le groupe Blind Faith, puis a fait des apparitions en solo dans des happenings organisés soit par des membres des Rolling Stones, soit par Jimi Hendrix, ou par un autre futur ex-Beatles, John Lennon, avec sa compagne Yoko Ono. Début 1970, Eric Clapton sort aussi son premier album solo. Mais il continue toujours de jouer sur les albums des amis. Soit ouvertement, comme pour le Plastic Ono Band de Lennon et Yoko Ono, soit incognito, comme sur le troisième album de George Harrison, All Things Must Pass. C'est d'ailleurs sur cet album que se trouve l'un des plus grands tubes d'Harrison, My Sweet Lord. So long. Épisode étonnant, la sortie de My Sweet Lord vaudra un procès pour plagiat à George Harrison, procès qu'il perdra. En effet, sa chanson de 1970 présente des ressemblances troublantes avec un morceau plus anecdotique, He's So Fine, chanté par le quatuor féminin The Chiffons, et sorti 7 ans plus tôt, en 1963. Jugez plus tôt.
He's so fine.
Depuis qu'ils se sont croisés au mi-temps des années 60, Eric Clapton et George Harrison sont donc, on l'a vu, les meilleurs amis du monde. Clapton et sa compagne du moment habitent tout près de chez George et Patty, et ils sont parmi les rares à être même devenus intimes des Beatles. Seulement voilà, depuis la première fois que Clapton a vu Patty Boyd, la femme de son ami Harrison, il a eu lui aussi un coup de foudre immédiat. Et depuis plusieurs années, il en est fou amoureux en secret. Patty occupe littéralement toutes ses pensées, et vis-à-vis de son ami George, Eric Clapton s'en veut énormément de ce qu'il ressent, presque malgré lui, pour la femme de son pote. Lui-même en couple, Clapton est tiraillé par cette situation douloureuse qui lui paraît inextricable. À la fin de 1970, Eric Clapton fonde un nouveau groupe, Derek and the Dominos. Le groupe entre rapidement en studio pour enregistrer son premier album. Sur cet album, Eric Clapton a écrit au moins 3 morceaux directement inspirés par l'amour secret qu'il porte à Patty Boyd, la femme de son ami George Harrison. Parmi ces morceaux, Bell Bottom Blues, mais aussi celui d'ouverture, I Looked Away, J'ai détourné le regard, qui commence comme ça. Elle m'a pris la main et j'ai essayé de me persuader qu'elle serait toujours là. Mais j'ai détourné le regard et elle s'est éloignée de moi aujourd'hui. Je suis un homme tellement seul. Entre 2 séances d'enregistrement avec Derek and the Dominos, Clapton rencontre le guitariste Duane Allman. Ils sympathisent, ils jouent ensemble de la guitare pendant de longues heures et ils apprécient immédiatement leur univers mutuel. Clapton invite alors Duane Allman à rejoindre le groupe Derek and the Dominos pour compléter l'enregistrement de ce premier album qui s'appellera Layla and Other Assorted Love Songs, Layla et autres chansons d'amour assorties. Au milieu des morceaux en préparation de l'album, il y en a un pour lequel le nouveau venu Duane Allman va réaliser un petit miracle. Pour le riff d'ouverture, il propose à Clapton de s'inspirer du début du couplet d'un morceau du bluesman Albert King, « As the Years Go Passing By ».
Nothing I can do if you leave me here to cry. There is nothing I can do. If you leave me here to cry, you know my love will follow you as the years go passing by.
Vous avez sans doute remarqué la suite de notes sur laquelle Albert King chante « There is nothing I can do ». Eh bien, Duane Allman va modifier la dynamique d'une des chansons prévues par Clapton pour l'album en récupérant ces quelques notes d'Albert King pour en changer la tonalité et les accélérer afin de créer le riff d'ouverture. Écoutez les deux enchaînés, ça va devenir plus clair.
There is nothing I can do.
Au final, cet album de Derek and the Dominos, Layla and Other Assorted Love Songs, deviendra un monument de la pop culture. Mais sur les 14 titres de l'album, c'est bien ce 13e morceau, remis en valeur par Duane Allman, qui traduira le mieux l'amour impossible que ressent Clapton pour Patty Boyd. Et c'est ce morceau qui fera définitivement entrer Clapton dans l'histoire du rock. Son nom se trouve inclus dans le titre de l'album, Layla. Comme il ne peut pas raconter frontalement ce qu'il ressent pour la femme de son pote Harrison, Clapton a choisi avec Layla de s'exprimer à travers une histoire inspirée d'un conte persan du XIIe siècle et qui fait parfaitement écho à son propre mal-être. C'est un conte mythique des pays arabes qui est l'équivalent pour nous de Tristan et Iseult ou de Roméo et Juliette. Ce conte relate l'histoire du poète Caïs qui devient fou d'amour pour sa cousine Layla. Il chante à qui veut l'entendre qu'il aime sa cousine et qu'il veut l'épouser. Mais le père de celle-ci refuse et demande même au calife le droit de tuer ce prétendant trop bavard. Caïs part alors se cacher à La Mecque, mais cet amour idéalisé pour Layla qui mine son esprit finira par lui faire perdre la raison. Son désespoir atteint des sommets lorsqu'il apprend que celle qu'il aime a été mariée de force à un autre homme. Finalement, on retrouvera Caïs agonisant seul dans le désert avec à la main un dernier poème écrit pour Layla, celle pour laquelle il sera mort fou d'amour.
بليلى فلهاني وما كنت لاهيا بثمدينا لاحت نار ليلى وصحبتي بذات الغضا تزجى المطيا النواجيا
فيا ليلى كم من حاجة لي مهمة إذا جئتكم بالليل لم أدري ما هي فيا ليلى من حاجة لي مهمة إذا جئتكم بالليل لما أدري ما هي
Dr Schnock raconte sur Radio MDM l'histoire de Layla,
troisième et dernière partie. L'album Layla and Other Assorted Love Songs de Derek and the Dominoes sort le 9 novembre 1970. Mais c'est une sale période pour Clapton. Il est en effet de plus en plus déprimé par cette histoire d'amour impossible qui le ronge. Et facteur aggravant, depuis un mois, il pleure également la disparition de son ami Jimi Hendrix. Clapton sombre alors dans la drogue, l'alcool et diverses addictions pendant de longs mois. Comble de malheur, Duane Allman, le magicien du riff de Layla, meurt à son tour l'année suivante en 1971 dans un accident de moto, à un mois de ses 25 ans. Après la tournée anglaise de Derek and the Dominoes en 1970, la tournée américaine de 1971, un peu plombée, se fera pour tous les musiciens dans un brouillard de drogue et d'alcool. Le groupe n'y survivra pas et ils se séparent fin 1971. En plus de la disparition précoce de Duane Allman, deux autres musiciens de Derek and the Dominoes auront par la suite un destin tragique. Un mourra de ses addictions en 1981 et l'autre finira en hôpital psychiatrique en 1983. Dans leur seul véritable album de 1970, devenu mythique depuis, Clapton et Derek and the Dominoes avaient également enregistré la reprise d'une chanson de Jimi Hendrix, que celui-ci n'entendra malheureusement jamais. Little Wing. Les sous-entendus des chansons de Clapton sont très clairs pour Patty Boyd, l'épouse de George Harrison. Elle n'est évidemment pas dupe de ce que ressent Clapton pour elle. Depuis longtemps, elle a repéré la façon dont il la regarde, et une grande complicité s'est même installée entre eux. L'un est peu à peu devenu le confident de l'autre, et vice-versa. Clapton a même écrit à Patty plusieurs lettres peu équivoques dans lesquelles il lui témoigne son attachement. Mais rien n'y fait. Patty est toujours amoureuse de son Beatles de mari et les avances, même les moins discrètes de Clapton, n'y changent rien. George Harrison est toujours le premier dans son cœur, même si le couple connaît des hauts et des bas. C'est vrai que depuis 1967, Patty Boyd est devenue une adepte de la méditation transcendantale. Cette philosophie de relaxation et de développement personnel venue d'Orient a été introduite par le maître spirituel indien Maharishi Mahesh Yogi. Patty Boyd a initié son mari George Harrison à ce précepte philosophique et même les trois autres Beatles, et ils se rendent tous ensemble en Inde en février 1968. Cette philosophie aura une influence certaine sur la musique des Beatles de cette époque, mais aussi sur leur consommation de drogues nouvelles. George Harrison a été d'autant plus facile à convaincre de s'adonner à cette quête spirituelle que depuis longtemps, la culture et la musique indienne le fascinent. Notamment l'instrument, le sitar, qu'il avait imposé à ses camarades Beatles 2 ans plus tôt. I once had a girl, or should I say, she once had me. She showed me her room, isn't it good, Norwegian food. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. I sat on the rug, biting my tongue. Mais cette virée initiatique en Inde a tout de même transformé George Harrison sur la durée. Désormais, il est de plus en plus mystique, et quand il ne médite pas pendant des heures, il cherche la transcendance dans diverses drogues. En 1971, suite à un cyclone qui a dévasté le Pakistan, Harrison organise avec le concours du musicien indien Ravi Shankar le premier grand concert de charité de l'histoire, Concert for Bangladesh. Ce concert réunira sur scène, outre Harrison et Ravi Shankar, Ringo Starr, Bob Dylan ou Billy Preston, entre autres. Eric Clapton, bien sûr, est aussi de la partie, à qui son ami Harrison permet de sortir un peu de sa dépression alcoolisée. Ce concert de charité se tiendra à New York en août 1971, devant 40 000 personnes.
Harrison, with all of the enormous problems in the world, how did you happen to choose this one?
Because I was asked by a friend if I'd help, you know, that's all.
I'd just like to say before we start off with the concert, to thank you all for coming here. I'd like to bring on a friend of us all, Mr. Bob Dylan.
Down before you call him a man.
Overnight, everybody knew the name of Bangladesh all over the world.
Pendant cette même période post-Beatles, George Harrison participe à plusieurs morceaux des albums de ses anciens collègues John Lennon ou Ringo Starr. Il sort aussi deux albums solo, celui de 1970, qui contient My Sweet Lord, on l'a vu précédemment, mais aussi un autre, en 1973, Living in the Material World. Dans le morceau éponyme de l'album, il raconte que si c'est justement en vivant dans le monde matériel qu'il est devenu célèbre, les sens, en revanche, n'y sont jamais vraiment gratifiés. Selon lui, on doit s'échapper à tout prix de ce monde matériel, notamment par la prière et la spiritualité. Dans ce monde bassement matériel, donc, et pendant toute cette période du début des années 70, George Harrison court d'un enregistrement d'album à l'autre, d'une tournée à l'autre, des États-Unis à l'Angleterre et vice-versa. Il y enchaîne bien évidemment les soirs de fête et les nuits loin de sa femme Patty. Des fêtes où les drogues et l'alcool servent souvent de véhicule spirituel. Comme on peut s'en douter, les conquêtes féminines hallucinées d'un soir se succèdent dans le lit d'Harrison. Il a même pendant un temps une relation adultère avec la compagne de Ringo Starr. Alors même si elle a beaucoup fermé les yeux jusque-là, tout ça devient vraiment insupportable pour Patty Boyd. Le couple Harrison-Boyd se sépare en 1974. Patty n'a alors pas bien loin à aller. Elle se précipite dans les bras d'Eric Clapton, qui n'attendait que ça depuis de longues années. Au contact de Patty, Clapton sort peu à peu de sa dépression chronique et il abandonne les drogues dures. Cette même année 1974, Clapton sort un nouveau disque solo. Cet album, enregistré en Floride,
et notamment inspiré en partie par son voyage en Jamaïque l'année précédente. Sur place, il avait rencontré un jeune inconnu très talentueux nommé Bob Marley. Clapton lui emprunte pour cet album le morceau « I Shot the Sheriff ». Ce morceau va lancer à la fois la carrière internationale de Bob Marley et la vague du reggae en Europe.
I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. All around in my hometown, they're trying to track me. They say they want to bring me in guilty for the life of a deputy. But I say I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense.
Déjà source d'inspiration majeure pour son mari George Harrison pendant 10 ans, Patty Boyd est devenue la muse, cette fois-ci officielle, d'Eric Clapton. Après l'appel du pied que fut Layla, Clapton va continuer d'écrire pendant les années qui suivent plusieurs chansons pour Patty, désormais à visage découvert. En 1977, le divorce de Patty et George Harrison est prononcé et en 1979, Eric Clapton et Patty Boyd se marient. Clapton et Harrison restent tout de même bons amis, puisque ce dernier est invité au mariage, de même que ses anciens collègues Beatles, McCartney et Ringo Starr. Mais ce que Patty ne soupçonnait pas vraiment au début de son engagement officiel avec Clapton, c'est que si ce dernier s'est sevré des drogues dures, il n'a en revanche jamais cessé de boire. Et son alcoolisme est devenu particulièrement toxique. En 1982, Clapton entame une cure de désintoxication, mais c'est surtout une deuxième cure en 1987 qui lui permettra de redevenir sobre. Malheureusement, durant cette période alcoolisée du début des années 80, Eric Clapton a été régulièrement infidèle à Patty Boyd, au point que d'une de ses différentes liaisons extra-conjugales est née une petite fille en 1985. Puis il aura un petit garçon avec une autre de ses maîtresses en 1987. Patty Boyd quitte Clapton en 1988 et le divorce est prononcé en 1989. Loin des affres du show business, Patty s'installe en 1991 avec Rod Weston, un promoteur immobilier, qu'elle épousera en 2015. En 1991, justement, Clapton pousse son vieil ami Harrison à reprendre la route. Ils partent ensemble en tournée au Japon, ce qui donnera lieu à l'enregistrement d'un album live d'Harrison. Dans cet album, sur lequel joue Clapton, bien sûr, on peut entendre les reprises de plusieurs chansons de George Harrison, dont certaines avaient été écrites pour Patty Boyd, mais aussi des standards du blues et du rock, ainsi que des reprises qui sont parues sur des albums des Beatles. Parmi elles, « Here Come the Sun », écrite par Harrison début 1969. Il était alors toujours marié avec Patty, et le couple était en vacances dans la maison de campagne d'Eric Clapton.
Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Darling, it seems like years since it's been clear. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. Thank you.
Pendant 25 ans, entre 1964 et 1989, Patty Boyd fut la muse à tour de rôle et simultanément de deux des plus grands musiciens de la pop culture, George Harrison et Eric Clapton. Elle leur aura inspiré de nombreuses chansons restées célèbres, dont l'une des plus fameuses est celle d'Eric Clapton, Layla. En 1995, l'institution américaine de classement Rock and Roll Hall of Fame cite Layla parmi les 500 chansons qui ont façonné l'histoire du rock'n'roll. En 2004, Layla est classée par le magazine Rolling Stone à la 27e place des 500 plus grandes chansons rock de tous les temps. En 1992, au retour de sa tournée au Japon avec Harrison, Eric Clapton était revenu à son tour sur la scène musicale avec l'album Unplugged. Il y reprenait, en public et en acoustique, des standards du blues et ses propres chansons. 22 ans après la version originale inspirée par Patty Boyd, on retrouve dans cet album live une version de Layla au rythme ralenti. C'est immédiatement devenu un hit mondial. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est de loin la meilleure de toutes les adaptations qu'on a pu tenter de Layla jusqu'à aujourd'hui. La Layla première mouture avait déjà été un grand succès. Cette deuxième mouture acoustique, plus de 20 ans après, est devenue un succès plus grand encore. En effet, avec plus de 20 millions d'exemplaires vendus dans le monde, l'album Unplugged, qui contient cette version acoustique de Layla, constitue la plus grande réussite commerciale d'Eric Clapton de toute sa carrière. Aujourd'hui, en 2024, Patty Boyd déroule tranquillement ses 80 printemps. Elle n'inspire malheureusement plus de nouvelles chansons, mais on est sûr au moins que celle-là, Layla, restera deux fois dans l'histoire.
What will you do when you get lonely? No one waiting by your side. You've been running much too long. You know it's just your foolish plan. Layla, got me on my knees, Layla, begging, darling, be Layla. Darling, won't you ease my worry now, Layla? Got me on my knees, Layla, begging, darling.
Thank you.
Salut, Dr Schnock vous dit à la prochaine. Dr Schnock raconte, c'est aussi disponible en podcast sur le www.radio-mdm.fr.